Bon, ben on s'en va faire un petit tour du côté de Daniel Rioux. Allô, Daniel.
Bonjour, Denis Martin.
Ah, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué?
Ben, c'est
Tu m'avais
justement ça.
demandé d'en trouver une, j'en ai une.
Oui, puis tout à fait. Puis pourquoi s'enfarger dans les fleurs du tapis, hein?
Oui.
Continuellement s'enfarger là-dedans. Ben, c'est un article qui est paru dans le magazine Philosophie. C'est le dossier de ce magazine qui s'intitule « Pourquoi se compliquant? On se complique la vie » et c'est du mois d'août 2025. Donc, ben, il a coupé les cheveux en quatre.
J'appelle ça la tétracapilectomie.
Seigneur Dieu, c'est compliqué votre affaire, vous, là. Ben, écoutez bien, ben là, ça va peut-être être moins tétra, là, mais ça va être plus... Imaginez cette expression-là, elle date du 17e siècle.
Quand même.
On disait à l'époque « fendre un cheveu en deux » avant de parvenir à l'expression actuelle, c'est-à-dire « couper les cheveux en quatre ». Ça décrit pas l'art du coiffeur pour qui découper un long cheveu en quatre est un jeu d'enfant, hein, mais l'obsession de celui ou celle qui veut atteindre la perfection au prix d'une méticulosité extrême et qui complique tout. Mmh. On s'attache à des détails inutiles, on s'attelle à une tâche infinie, on est omnubilé par le désir de perfection et on oublie l'essentiel. Et Jean-Jacques Rousseau, lui, en 1755, dans un de ses discours, disait qu'on fustige la passion moderne pour les techniques les plus sophistiquées, hein, modernes à l'époque, qui nous font oublier la richesse du rapport immédiat que nous entretenons avec la nature ou nos semblables. Plus simple, le conseil de Rousseau, on va mieux comprendre. Laissez vos cheveux tranquilles, ne cherchez pas la perfection et allez à la rencontre des arbres, des plantes, des animaux et des humains.
Mmh.
Ah, c'est pas mal ça. Il y a aussi l'expression « chercher midi à 14 heures ».
Ah oui, quelle expression,
hein?
Oui.
Quelle expression. C'est une expression qui date encore aussi du 17e siècle, qui signifie « chercher une chose là où elle n'est pas ».
Ah.
Et au lieu de tendre la main et de profiter de ce qu'on a sous les yeux, on a souvent tendance à échafauder des hypothèses sophistiquées. Et ici, dans l'article, on donne l'exemple d'une nouvelle d'Edgar Allan Poe qui s'intitule « La lettre volée » et qui est apparue en 1844. Ce sont des policiers qui fouillent de fond en comble un appartement à la recherche d'un document compromettant. Mais cette fameuse lettre volée, au lieu d'être dissimulée dans un endroit difficile à trouver, ben la lettre avait été laissée tout simplement bien en vue dans un porte-document sur le bureau. Donc, il n'y avait pas besoin de fouiller de fond en comble, les fameux policiers. Mais cette lettre nous dit que, au lieu de profiter du présent, nous allons devant de nous-mêmes vers un ailleurs plus palpitant que l'évidence de ce qui nous est donné. Blaise Pascal, lui, dans ses pensées, paru en 1670, on aime mieux la chasse que la prise. Donc, le divertissement, l'aventure, le plaisir angoissé de la quête nous éloigne de notre présence à nous-mêmes et aux autres. Plus simplement, pour nous tous, le conseil de Pascal, ne regardez pas l'heure qu'il est. Lâchez aussi votre téléphone, c'est ce que j'ajoute. Oubliez les choses à faire, vivez au présent.
Ouais.
Donc, c'est un beau conseil, ça.
Ben, tu sais, je t'interromps. Moi, tu sais, j'ai quand même plusieurs mandats en plus d'animer cette émission-ci. J'ai d'autres mandats dans la vie. Puis, tu sais, je me rends compte, des fois, j'ai beaucoup de choses à faire. Et au lieu de me stresser, c'est fou ce que je dis, mais je rentre dans justement, mon fameux téléphone, moi, c'est ça qui m'aide. J'ai un truc qui s'appelle Note, là. Et là, je rentre tout ce que je dois faire selon des catégories et je leur assigne une heure de tombée ou une date. Et là, je me dis, ben là, c'est ciselé, je vais faire ça demain. Et je dis à mon cerveau, t'arrêtes de t'en faire avec ça.
Excellent. Ben, c'est là qu'est utile le téléphone ou la liste, l'écrire à la main.
La liste aussi. Faire une liste des choses qu'on a à faire, puis de leur attribuer, voici, je fais ça demain, je fais ça après-demain.
Oui.
Moi, tu sais, le ménage, je le mets dans la liste des choses à faire. Puis je me dis, même si je dis que ça va être vendredi, tu sais, la poussière, là, elle va être encore le vendredi.
Oh, mon Dieu, ben oui. Puis tant qu'on n'écrit pas notre nom sur les meubles, tout va bien, hein? Tout va bien.
Ça, c'est trop drôle.
Mais c'est justement, ça nous amène à l'expression suivante, s'en faire toute une montagne.
Oui.
On imagine parfois qu'une prise de parole en public ou un engagement ou encore une explication sincère avec un ami va constituer des événements pénibles qu'il faut s'y préparer longuement, y arriver après de pesants efforts. On angoisse, on exagère les fameuses difficultés, on dramatise inutilement. Et c'est surtout la crainte d'échouer qui nous gâche l'existence et qui nous paralyse. Il y a le philosophe Alain qui, en 1921, disait que la peur est plus grande de loin, car on ne voit pas clairement et distinctement le moment désagréable que l'on devra traverser. Au contraire, on refuse de se représenter à l'avance les difficultés que l'on aura à vaincre. En avançant avec résolution vers le moment tant redouté, on remplace la peur par la perception de ce qu'on a à affronter. Bon, plus simplement, là, pour tout le monde, le conseil d'Alain, le secret de l'action, c'est de s'y mettre. Ayons pas peur, on s'y met, puis on fonce, hein? Pourquoi pas? Il y a aussi l'expression, ah ça c'est bien, se mettre la rate au courbouillon.
Ah, oh là là, je la connais pas celle-là.
Moi non plus, je la connaissais pas. Là, je vais vous la faire découvrir. C'est une sympathique expression qui sort tout droit d'un roman de Frédéric Dard en 1965. Et ça nous renvoie à la médecine de l'Antiquité. On va chercher ça loin, hein?
Ouais.
Alors, selon cette tradition restée vivace en Occident, la rate est l'organe qui produit la bile noire. Tu sais, se faire de la bile pour un rien.
Oui.
C'est un liquide, on disait, c'est l'humeur, qui fait naître la mélancolie. Et face donc à des situations, ben l'anxiété se manifeste par un malaise presque physique. On énumère toutes les possibilités, on est plein d'inquiétudes, on se montre incapable d'être satisfait de ce qu'on a réalisé. Et on se pose la question, comment lutter contre cette somatisation? On va même avoir des mots psychosomatiques. Hein? Peut-être en assumant son état et en puisant dans ses idées noires pour trouver des solutions originales, totalement singulières. Là, il y a Aristote qui s'en mêle. Il dit, ben écoutez, là, le conseil bien simple d'Aristote, ne cherchez pas à sortir de votre état d'esprit, mais profitez-en pour inventer des chemins qui n'appartiennent qu'à vous. Et foncez. Hein? Pourquoi pas? Il y a aussi une autre expression qui est du 20e siècle, se faire des nœuds au cerveau.
Oh, wow! Oui, ça fait longtemps que je n'avais pas entendu cela, effectivement,
oui. Ah oui, bon, ben moi, c'est la première fois que je la voyais. C'est
j'avais déjà entendu, je te fais bout de temps, là.
Oui.
Puis je pensais que c'était un péronisme.
Non, non. Alors, donc, c'est au 20e siècle qu'on c'est apparu. C'est une formule qui apparaît à une époque où l'on découvre la complexité de notre appareil cérébral. Mais on s'ingénie à créer de nouveaux obstacles, finissant par tellement s'en mêler qu'ils ne peuvent plus rien faire ni penser. Alors, c'est nous qui pouvons ni faire ni penser de quoi que ce soit. Et Descartes s'en mêle. Il se dit, ben voyons donc, laissez tomber les idées obscures qui vous empêchent de sortir de l'embarras. Hein? Arrêtez de faire des nœuds dans votre cerveau. Se noyer dans un verre d'eau, ben, c'est mentionné dès le début du 18e siècle. Et ça suggère aujourd'hui l'état de celui qui se fait dépasser par les événements à la moindre difficulté. Et Hegel, le penseur, pour éviter l'immersion, justement, les moments qui bloquent ou qui font mal sont inévitables. Alors, il va d'un conseil très simple. Il faut parfois, sous l'orage, avant de parvenir au but souhaité, ben alors, si vous voyez un verre d'eau qui vous trouble, buvez-le. Donc, ça, tout simplement. Et finalement, se prendre la tête, c'est très années 80. C'est une expression qui signifie tout à la fois compliquer une situation. Au lieu d'agir et s'énerver, voire se disputer avec autrui, on s'irrite soi-même, on exaspère autrui par la même occasion, en se figeant dans une attitude qui est paralysante, où l'on n'arrive pas à passer à autre chose. Et Spinoza nous dit que pour s'en sortir, il faut se déprendre la tête. Et le conseil tout simple de Spinoza, ne vous laissez pas déborder par l'irritation, la rancœur, la souffrance. Levez la tête, observez, réfléchissez et vous trouverez le bon chemin.
Wow. Mais, en fait, se prendre la tête, tu vois, on se disait avant d'aller en onde, trouve donc des expressions, puis ça, c'était celle que c'est celle que j'utilise le plus souvent. Je me prends pas la tête avec ça. Puis tu vois, ça m'est pas passé par l'idée de le dire. Ouais. Puis je pense qu'on des fois, on a trop de brou dans le toupette aussi.
Ah oui.
Et pour reprendre, j'ai parlé de péronisme. Pour ceux qui ne le savent pas, péronisme, c'est devenu une expression consacrée. Hein, c'est dans Wikipédia, d'ailleurs. C'est un ancien chroniqueur sportif ou un entraîneur de sport qui avait la manie de mêler toutes ces expressions-là. Puis une qui me vient en tête, c'est qu'il n'est pas allé avec le dos de la mer morte.
Il parlait avec le dos de la mer morte. Puis péronisme, M. Jean Perron, justement, l'ancien coach des Canadiens. Puis qui avait un restaurant, un petit casse-croûte très populaire à Chandler, puis qui a été mis en vente parce que il vit encore, je crois, avec une dame qui vient de la Gaspésie, puis a ouvert justement à l'époque un petit resto. Puis je pense qu'il est mis en vente parce que M. Perron est quand même plus âgé.
Oui, mais puis c'est on ne rit pas de lui, on rit avec lui en passant.
Avec lui, puis il doit être un homme très sympathique.
Tout à fait. Hey, merci beaucoup, Daniel. On se revoit la semaine prochaine.
Oui, c'est un rendez-vous.
Merci. Après la pause, donc, Louis de Bernay, c'est les chroniques, la chronique de l'insolite. Puis on va parler aussi de la saison du théâtre du CEP. Je vous dis, une saison qui s'en vient, qui s'annonce vraiment intéressante. J'ai hâte d'en parler avec Jean-Simon Traversy, qui est co-directeur artistique du théâtre du CEP. À tout de suite.